Matière à réflexion. J'ai trouvé aujourd'hui dans l'Obs, édition du 16 avril 2020, un magnifique article signé de Claude Alfandéry. Grande signature s'il en est. 97 ans, grand résistant, pionnier de l'économie sociale et solidaire. Il a été président du comité départemental de la libération de la Drôme, et il est président d'honneur du Labo de l'économie sociale et solidaire et de France Active. Il a intitulé cet article « Résister à la pandémie, comme au temps des maquis ». Je vais vous en lire quelques extraits, mais je vous encourage à lire l'article d'ores et déjà dans son étendue complète dans l'Obs, ou bien éventuellement de le retrouver sur nouvelobs.com. Au printemps 1943, 3 ans après l'invasion de la France et la capitulation vichyste, les Alliés remportaient certes d'éclatantes victoires. Dans notre pays, des résistants s'élevaient contre l'envahisseur. Mais les forces nazies restaient redoutables. Une oppression féroce nous terrassait, tel un virus étouffant. Et pourtant, quelques mois plus tard, à l'automne 43, bien avant le débarquement libérateur, nous recommencions à vivre. Je voudrais comparer ces jours de guerre à notre époque. Tirés du retournement inouï qui nous a dégagés de l'asservissement et projetés vers un avenir, un enseignement qui nous aide à sortir de l'oppression physique et morale ressentie sous la pandémie, et simultanément à trouver les voies nouvelles d'un avenir respectueux du vivant. Comparaison peut-être hasardeuse, mais que je vise intensément. Nous ne sommes pas à proprement parler dans une guerre contre un ennemi violent, barbare, visible, déclaré. Nous avons à nous défendre contre les effets invisibles, le virus, ou plus ou moins éloignés, le désastre écologique, ou sournois, les manipulations financières ou numériques. Des crises économiques, écologiques, financières, sociales et aujourd'hui sanitaires entremêlées, que nos propres dirigeants dans leur obsession du profit financier ont engendré. Mais dans l'une et l'autre circonstance, nous avons à apprendre des années de résistance, comment l'état le plus sombre s'est transformé en un élan extraordinaire qui nous a conduit à la libération. Dès l'automne 40, dans la Drôme, un comité départemental et 15 comités locaux de libération rassemblaient tous les mouvements. Quant aux maquisards, entre quelques coups de main contre l'ennemi, ils avaient du temps pour réfléchir, pour échanger entre eux. C'était un peu comme le confinement, mais sans l'isolement physique. Ils avaient au contraire l'occasion de rencontres inhabituelles. Ils apprenaient peu à peu à débattre. J'avais fait appel pour les y aider aux dissidents de l'école d'Uriage qui pratiquaient dans le Vercors des méthodes innovantes de débat. Ils m'avaient délégué Simon Nora, futur conseiller de Mendès France, pour animer de formidables discussions sur la démocratie. Quelles étaient les faiblesses, les errements de la Troisième République? Pourquoi le Front populaire, après des avancées prometteuses, avait-il échoué? Comment donner à tous accès à l'éducation, aux soins, etc. Certains maquis devenaient ainsi des sortes de clubs de citoyens où se forgeait l'opinion que les objectifs de la résistance n'étaient pas seulement militaires, mais aussi civiques et politiques. Et je puis assurer que les débats de ces réfractaires, sans grade, ces refusniques, ont eu une réelle influence sur les têtes pensantes du Conseil national de la Résistance. Celle-ci s'est poursuivie pendant les Trente Glorieuses. De grands artisans d'un New Deal économique tels que François Bloch-Lémé, Paul Delouvrier, Pierre Larocque, Simon Nora ont fait leurs armes dans le maquis. La Résistance n'a pas fondé un parti, mais son souffle a inspiré pendant 30 ans les syndicats, les associations, les entreprises à vocation sociale, les collectivités. Ce souffle s'est après délité, l'économie financière prenant le dessus. irruption de mes souvenirs des maquis vient à la rencontre des crises qui s'entrelacent depuis la fin des années 70 et de la pandémie qui en est le dernier cruel avatar. Comme pendant la guerre, notre pays connaît à côté de grandes souffrances de hauts lieux de résistance. D'abord les hôpitaux, où l'extrême urgence laisse peu de temps aux échanges, contrairement aux maquis, mais où s'impose l'exigence de services publics plus soucieux des citoyens que des coûts financiers. Les expériences sociales et solidaires de lutte contre les pénuries, exclusions, atteintes à l'environnement, et simultanément pour la promotion de voies nouvelles, tiers-lieux, sociétés coopératives d'intérêt collectif, pôles de coopération, coopératives d'activité, etc. Là où se forge par l'innovation sociale une économie qui ne fonctionne plus comme avant. Les analogies sont frappantes. De même que dans les maquis de la libération, la lutte contre l'envahisseur était liée à une vision de la démocratie sociale, de même les résistants d'aujourd'hui, qu'il s'agisse de médecins, soignants de tous ordres, artisans de la vie quotidienne ou citoyens militants pour un monde plus soucieux de l'humain et de la nature, se battent à la fois contre les souffrances et pour la mue d'un système périmé. Les crises, comme hier la guerre, ne doivent pas se dénouer par l'identique, mais faire naître l'exigence de valeurs et de pratiques profondément transformées, de modes de production, d'échanges, de gestion radicalement nouveaux. Les expériences de soins et celles d'économie solidaire en cours sont un avant-goût, une ébauche, une promesse de transformation que l'effondrement de la vie économique et sociale nous offre une possibilité de réaliser. Ces transformations, dont la nécessité est évidente quand on voit l'impréparation des hôpitaux face au Covid-19 et plus généralement l'état des services publics, impliquent un changement de paradigme, une réorientation des activités. Les pouvoirs publics nous disent aujourd'hui quelles activités sont considérées comme essentielles de leur point de vue économique et doivent être poursuivies malgré l'épidémie, et quelles autres doivent être suspendues. Il nous faut aborder ce problème sous un angle élargi, celui de la transition écologique et solidaire, seule sortie acceptable de la crise. Quelles productions inutiles, voire nuisibles, faut-il écarter ? Quelles activités doit-on développer ou créer ou relocaliser ? Quels moyens pour former à de nouvelles technologies et plus encore à de nouveaux comportements ? Ne faut-il pas réunir les crédits et indemnités promis face à la crise en un revenu unique et universel permettant à chacun de s'attacher à de nouvelles formes d'activité ? Comment, d'une façon plus générale, opérer les transferts nécessaires pour ces profondes transformations ? Ces questions sont difficiles. La façon dont elles sont posées par de grandes associations est encourageante. Grandes associations, pouvoir de vivre, labo de l'économie sociale et solidaire, fabrique des initiatives, archipel, osons les jours heureux, ONG, etc. Et le succès de l'économie sociale et solidaire sur le terrain montre sa capacité à réaliser de grandes transformations dans ses modes de production, par sa sensibilité aux besoins de proximité, par son respect de la nature, sa recherche d'équilibre, de juste prix. Il faut convaincre en rassemblant des initiatives remarquables, mais fragmentées, en mettant en lumière les bénéfices des solutions apportées, les coûts sociaux évités, l'avenir préservé, en conjuguant les efforts dispersés, en nouant des liens entre les expériences, entre les territoires en France et en Europe, en constituant progressivement à partir des ententes locales un vaste écosystème porteur de développement équitable et durable, en retrouvant enfin pour convaincre l'énergie, l'optimisme raisonné des maquis et le lien que la résistance a su créer. Et pourquoi ne pas créer entre tous ces réseaux un Conseil national de la résistance qui lancerait un nouvel appel pour des jours heureux.
C'était Matière réflexion, article de Claude Alfandéry du 16 avril 2020 dans l'Obs, élu par André Barnault.